Dernier tout de suite.
Bonjour, bienvenue à tous. Ce mardi, nous remontons les traces de dinosaures en Ardèche. On s'intéresse aussi à l'étude des drapeaux, ça s'appelle la vexillologie. Et puis on file tous à l'opéra avec des journées portes ouvertes. Mais commençons donc avec l'actu de ce mardi 30 avril.
Oui, commençons donc.
Bonjour Denis Farouche.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Auchan annonce la mise en vente de 21 sites en France jugés pas assez rentables.
Des sites déficitaires. La CFDT a calculé que 723 salariés étaient concernés. 21 sites du nord au sud, Antoine Quevilly.
Renaissance, c'est le nom du projet présenté ce matin au syndicat. Pas mal d'hypermarchés espèrent surtout un repreneur pour ne pas mourir.
On va parler des impôts sur le revenu qui vont baisser. Bruno Le Maire a donné des précisions ce matin.
Et de l'essence qui continue de grimper avec des prix au plus haut depuis 6 ans.
À la veille du 1er mai, on va prendre le pouls des défilés à venir.
À Paris, les commerçants et notamment les cafés-restaurants sont invités à fermer boutique sur le tracé.
Nous vous raconterons l'histoire d'un vétéran du débarquement de Normandie.
Il vient de s'éteindre à la veille de ses 99 ans. Il n'avait parlé que récemment de la guerre, de sa guerre.
Le Japon change d'empereur aujourd'hui.
C'est la première fois en 2 siècles que l'empereur du Japon abdique pour raison de santé.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
On savait que le distributeur Auchan n'allait pas bien. Le groupe a annoncé ce matin la mise en vente de 21 magasins.
21 sites déficitaires dans toute la France, Antoine Quevilly.
Oui, aucun territoire n'est épargné par ce projet baptisé Renaissance, et présenté aux partenaires sociaux. 13 supermarchés, tout d'abord, sont concernés.
Alors, on va faire les points cardinaux. Au nord,
Marquette-les-Lille, Arras, Albert dans la Somme et Rouen.
À l'est,
Folquemont en Moselle et Mulhouse.
À l'ouest,
Tours et Èvres en Indre. Loire,
au sud,
Perpignan et Roanne.
Et en région parisienne,
Athis-Mons, Chevilly-Larue et Saint-Ouen-l'Aumône.
Oui, mais ce n'est pas tout.
Et oui, rajouter 4 chronodrives à Agen, Bayonne, Caen et Vannes, 2 halles d'Auchan à Meaux et Bobigny, un centre de préparation Auchan Direct à Marseille et un hypermarché à Villetaneuse, 188 employés, c'est le plus gros site concerné.
723 salariés concernés au total, que vont-ils devenir?
Eh bien, ça dépend. Auchan veut vendre, encore faut-il trouver quelqu'un pour acheter et reprendre ou non tout le personnel. L'enseigne précise que faute d'acquéreur, un plan de sauvegarde de l'emploi sera ouvert pour accompagner tous les collaborateurs concernés. La CFDT dénonce, je cite, un PSE qui intervient après des années d'errance stratégique.
Antoine Quevilly sur France Bleu.
Les précisions arrivent doucement après les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière.
Concernant les baisses d'impôts sur le revenu, le ministre Bruno Le Maire annonce un gain de 180 à 350 euros par an pour les ménages concernés.
Je proposerai au Premier ministre que cette baisse de 5 milliards se concentre sur la première tranche d'impôt sur le revenu, la tranche à 14%, avec à la fois une baisse de ce taux de 14%. L'objectif, c'est quoi? C'est que les 12 millions de personnes qui sont dans cette tranche à 14%, les 12 millions de foyers fiscaux, puissent avoir une baisse moyenne d'impôt sur le revenu de l'ordre de 350 euros. Donc je souhaite que nous concentrions cette baisse sur la première tranche à 14%, ça ne veut pas dire que la tranche à 30% ne sera pas concernée. Il faut malgré tout qu'il puisse également bénéficier de cette baisse d'impôt pour un gain moyen de l'ordre de 180 euros par foyer fiscal.
Les impôts sont appelés à baisser. Pour le moment, ce n'est pas le cas de l'essence. Les prix à la pompe repartent à la hausse.
L'essence est au plus haut depuis 6 ans. Le diesel continue de grimper. Depuis le début de l'année, c'est une hausse de 25% d'après le calcul de l'Union française des industries pétrolières. En plein débat sur la fiscalité carbone, son président Francis Duzeux estime que le gouvernement pourrait plafonner les prix.
Nous, on a toujours dit, faites très attention, c'est trop sensible. 22 millions de Français tous les jours ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Souvent 2 voitures dans toutes les petites villes de province, en grande banlieue parisienne, partout dans les zones rurales. Donc c'est très très sensible sur les budgets. Pour quelqu'un qui roule 25 000 km par an, les taxes pèsent 1 500 euros par an dans les budgets. Imaginez 2 voitures, c'est 3 000 euros. Avec des payes qui ne sont pas forcément très élevées dans certaines zones, c'est tout à fait considérable dans les budgets. Donc je pense que le gouvernement réfléchit à une forme de plafonnement des prix.
Le président de l'Union française des industries pétrolières.
La consommation d'alcool était en baisse régulière depuis la fin des années 40. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. Le niveau de consommation de 2017 est le même que celui de 2013.
L'Académie nationale de médecine s'énerve un peu en pointant du doigt le gouvernement et le président. Le professeur de santé publique Gérard Dubois est membre de l'Académie.
La responsabilité est au plus haut niveau de l'État. Le président de la République écrit à Vin et Société, qui est une entreprise de lobbying en faveur du vin, pour indiquer qu'ils sont un acteur crédible de prévention. Cette organisation diffuse dans les écoles des dépliants pour les 3 à 6 ans sur la vigne, sans parler d'alcool ni de ses effets. Vous avez un ministre de l'Agriculture qui intervient sur les médias de manière répétée pour dire que le vin n'est pas un alcool comme les autres. Les mesures à prendre, tout le monde les connaît. Il faut revenir à une réglementation stricte de la publicité comme le prévoyait la loi E20. Et surtout un pictogramme visible qui rappelle aux femmes enceintes de ne pas consommer. Donc les mesures sont connues, mais le lobby alcoolier fait tout pour qu'elles ne soient pas mises en œuvre.
Gérard Dubois, le président de l'Académie de médecine, avec Thibault Lefèvre.
Demain, c'est le 1er mai avec quelques changements à la clé.
Le tarif du gaz va baisser en moyenne de 0,6%. La CSG va baisser pour les retraités dont la pension est comprise entre 1200 et 2000 euros. Et sinon, rien à voir, c'est l'ouverture de la pêche aux poissons carnassiers. Pour le brochet, c'est déjà le cas depuis samedi dernier.
Donc c'est le 1er mai, certains s'inquiètent de la tournure que pourraient prendre les cortèges.
Comme les commerçants qui sont sur le parcours du tracé parisien, ils ont reçu pour consigne de fermer leur boutique, Thomas Séchier.
Oui, et ici sur le boulevard Montparnasse, beaucoup vont fermer dès le matin, comme le restaurant Big Fernand, géré par Cédric.
On a établi de fermer le restaurant pour la journée. Et on ouvrira seulement à 19h si les conditions le permettent. Connaissant un petit peu ce qu'ils ont déjà pu faire et ce qu'ils sont capables de faire, on est un peu inquiet. Moi, j'ai pas de rideau, j'ai pas de plaque de bois de prévu de poser ou quoi que ce soit, donc ça peut très vite être problématique.
Pour l'instant, les casseurs n'ont rien dégradé dans le quartier. Linda, qui tient un kebab un peu plus loin, aurait préféré travailler, mais elle n'a pas le choix.
Pour éviter les problèmes, on va fermer. S'il y a des casseurs qui cassent la vitrine et tout, donc après, ça sera pire. Donc je préfère de fermer une journée et ouvrir le lendemain.
Mais pour ce gérant d'une brasserie chic du boulevard, cette fermeture forcée, c'est celle de trop.
C'est totalement inadmissible et on laisse faire. La ville est prise en otage. Aujourd'hui, en termes de business, on est comme après le Bataclan, monsieur. On est à moins 30. Moins 30%. Un week-end, deux week-ends, trois week-ends, on comprend. Mais là, c'est bon. Ras-le-bol, le ras-le-bol total.
Et lui va carrément fermer toute la journée.
Thomas Séchier, des commerçants parisiens à la veille du 1er mai.
On retourne à Marseille ce midi, 6 mois après les effondrements de 3 immeubles du centre-ville qui ont fait 8 morts.
Et après l'évacuation par précaution de 2500 personnes, 6 mois après, des centaines de personnes n'ont pas retrouvé de logement définitif, Olivier Martoc.
Chaque lundi après-midi, le Molotov, un bar salle de concert situé à 100 mètres des immeubles effondrés, devient le point de ralliement des déplacés, ceux notamment relogés temporairement dans des hôtels par la mairie.
J'ai été dégagé donc manu militari d'un appart hôtel parce qu'il y avait un congrès, je sais pas quoi. Ça a été vraiment là un enfer. Il y a des moments où ouais, j'ai vraiment du spleen, quoi.
C'est très compliqué dans une chambre avec 2 adultes, 3 enfants. Ça fait 6 mois. Des fois, j'entends qu'ils vont sortir, faire sortir les délogés. C'est fini, il n'y a pas de place où il y a les touristes, où je vais aller être relogé. C'est inquiétant, quoi. Ouais.
Et parmi les bénévoles du collectif du 5 novembre qui viennent apporter conseils et réconfort, des psychologues comme Isabelle Bordet.
Justement, j'ai eu une situation tout à l'heure, c'est un vrai effondrement psychique. Ça fait 5 mois qu'elle est dans un hôtel. Il peut y avoir des gens effondrés tout de suite, des gens effondrés après. Ça devrait être une situation de crise, mais ce n'est plus une situation de crise. C'est un état de fait qui perdure, qui fait que les gens, oui, il y a vraiment un réel effondrement psychique. On n'a absolument pas mis les moyens, que ce soit la mairie ou l'État, pour répondre à cette crise qui dure et qui continue.
700 personnes sont toujours logées dans des hôtels, mais avec l'arrivée des touristes, la situation se tend. Et la mairie n'a pas de solution de remplacement.
Olivier Martoc et les habitants de Marseille, pas encore relogés 6 mois après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera au Japon au moment de la passation de pouvoir de l'empereur. Mais avant, on a appris que l'un des derniers vétérans du débarquement en Normandie, Bernard Dargolz, vient de s'éteindre à la veille de ses 99 ans.
Il était stagiaire aux États-Unis pendant la guerre et il s'est engagé dans l'armée américaine. Il a du coup débarqué en juin 44, une histoire qu'il a commencé à raconter très tardivement, 68 ans après la guerre, Nolwenn Lejeune.
En 2012, Bernard Dargolz a 92 ans et celui qui s'est longtemps tu livre un récit incroyablement clair et précis sur ce matin du 8 juin 44.
J'ai fait ce débarquement au milieu d'un bombardement incroyable qui m'a résonné dans le ventre pendant je ne sais pas combien de temps, mais qui n'était pas du fait du bombardement ennemi, mais de la part des navires alliés pour nous permettre de prendre pied sur le sol français. Je n'avais pas revu la France depuis 6 ans. J'étais parti en civil, je reviens avec une mitraillette. Je dis toujours, si ma mère me voyait, elle s'effondrerait.
Une parole rare qu'il a longtemps gardée pour lui parce qu'il avait peur de ne pas réussir à trouver les mots justes.
Je ne pouvais pas trouver un vocabulaire assez intelligent pour décrire ce qu'on peut ressentir quand on s'embarque dans un bateau pour aller dans un pays occupé par l'ennemi. Comment expliquer ça ?
Avec humour, il raconte aussi les préoccupations de ses copains GIs de l'époque.
Il y avait la question inévitable, si toutes les Parisiennes étaient jolies, ça va sans dire. Et des questions un peu rigolotes. L'Américain boit beaucoup de lait. Si le lait est homogénéisé, ça, il voulait savoir.
En 2014, Bernard Darcole s'était revenu au mémorial de Caen. Sa parole rare et précieuse s'éteint à la veille des commémorations du 75e anniversaire du débarquement.
Nolwenn Lejeune de France Bleu Normandie, l'histoire touchante, poignante de Bernard Darcole, c'est à retrouver sur francebleu.fr.
La première demi-finale de la Ligue des champions de football se joue ce soir entre Tottenham et l'Ajax d'Amsterdam, avant Barcelone-Liverpool demain soir.
En Ligue 1 de football ce soir, Montpellier espère faire tomber le PSG qui n'est pas au mieux de sa forme. C'est un match en retard qui va se jouer à guichet fermé au stade de la Mosson à Montpellier.
Et pendant ce temps, Rennes n'en finit pas de faire la fête après sa victoire en Coupe de France contre Paris.
Hier, le trophée était présenté dans les locaux de Ouest France. On est venu toucher la coupe et même chanter la coupe.
Ça fait de l'électricité même. Tu as embrassé, là, je l'ai en photo, là, dans mon portable. Ce que je lui ai dit, c'est qu'elle revienne le plus vite possible chez nous à nouveau.
J'ai même pris une photo avec, c'est un truc de fou. J'imaginais pas cette saison vivre et connaître ça.
Nous étions quelques beaux copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Momo et Benjamin, et la Coupe de France. Et ben, je l'ai embrassé. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai enlacé comme si c'était une femme, pareil. Elle a dit, je t'aime aussi, franchement. Je réalise pas encore trop.
C'est sympa de chanter la Coupe de France.
Allez, on passe par le Japon où ce matin l'empereur a renoncé au trône pour des raisons de santé. C'est la première fois en 2 siècles. Akito a remis les 3 trésors sacrés qui symbolisent son pouvoir. Un miroir en argent, des jopos et une épée qui, selon la légende, a été trouvée dans la queue d'un dragon à 8 têtes.
Son fils Naruhito va monter sur le trône. C'est le 126e empereur de la plus longue dynastie de la planète. Le premier empereur, c'était en 660 avant Jésus-Christ.
Alors tout se passe à huis clos et c'est une histoire d'homme. Même la femme du nouvel empereur n'a pas le droit d'assister à l'accession de son mari.
La nouvelle ère impériale japonaise a été baptisée Reiwa, belle harmonie, après 3 décennies d'ère Aizi, c'est-à-dire parachèvement de la paix.
Et on peut aussi vérifier ce qu'écoutent les Japonais aujourd'hui. Ils sont hip-hop et sur l'île du soleil levant, c'est plutôt hip-hop féminin.
Les 2 filles de Tokyo du groupe Alkali ont le vent en poupe, même si elles sont plus pop que hip-hop.
J'aime bien.
Ouais, on appelle ça le hip-hop kawaii. Ça veut dire quoi déjà ?
Mignon, kawaii.
Ah oui, c'est ça, du groupe Alkali.
Et après le Japon, nous allons en Ardèche sur la trace de dinosaures.
Plus anciens que les empereurs japonais.
On va parler de vexillologie.
C'est l'étude des drapeaux.
Et puis d'opéra aussi, avant le week-end, tous à l'opéra.
C'est parti, après la météo du jour.
Francebleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.